Et donc j'ai le plaisir de vous présenter Mike Evans, qui a été responsable d'OM France pendant plus d'une vingtaine d'années. Il a ensuite travaillé à l'Institut biblique de Nogent comme professeur de théologie pratique. Et suite à cela, il y a le comité de l'école biblique de Genève d'alors qui a fait appel à lui pour la mise en place d'un nouveau programme. C'est ce qu'il a fait, commencé à faire en 1991, en tout cas au stade de la réflexion, et qu'il a effectivement mis en place en 1992. Je me souviens, j'ai fait partie de la première volée IBG, c'était la 71e. Donc 1992-1993, et il a été directeur de l'IBG pendant 14 ans. Et sans plus attendre, je lui cède la place parce qu'on pensait qu'il était tout indiqué pour prêcher ce matin. Il a bien connu la fin de la période, en tout cas EBG, il a bien connu la période IBG, et sans plus attendre, on te cède la place, Mike. Merci.
Pour pouvoir mettre en place la technique, on a dû enlever mes aides auditives. Par conséquent, j'ai de très grands plaisirs de ne pas m'écouter ce matin. En réfléchissant à ces 100 ans de l'École biblique de Genève, de l'Institut biblique de Genève, il convient de jeter un regard lucide sur le passé, pour mieux appréhender le présent, pour mieux préparer l'avenir. Nous ne voulons pas sombrer dans la nostalgie, mais nous voulons effectivement utiliser le passé toujours pour construire. Et pour cette matinée, je vais fonder mes quelques remarques sur la fin de l'épître aux Hébreux. L'auteur anonyme de cette lettre l'a rédigée au milieu des années 60. Néron est au pouvoir et il intensifie la persécution contre les chrétiens. Et l'auteur de cette épître s'adresse à des chrétiens d'origine juive qui finalement passent en deuxième génération, une trentaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et pour plusieurs d'entre eux, les temps difficiles ont plutôt tendance à les décourager, et pour certains, ils ont plutôt envie d'abandonner la partie, de retourner au judaïsme qui les sécurise, de retrouver leur famille, parfois leur métier, sans parler donc de tout ce qui était la pompe, la cérémonie et les rites. Et par conséquent, l'auteur de cette épître se sert de quantité d'illustrations, de récits et d'anecdotes de l'Ancien Testament. En fait, c'est le livre du Nouveau Testament où il y a le plus d'allusions à l'Ancien Testament. Et pour cause, parce que l'auteur se sert finalement de toutes ces anecdotes pour rappeler à ces chrétiens d'origine juive la supériorité de la personne et de l'œuvre de Christ. Et dans les derniers chapitres de cette lettre, de cette épître, l'auteur a recours à quelques exhortations. Il pose des fondements et puis à la fin, il exhorte. Et nous lisons au chapitre 10, à partir du verset 32. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat, d'une part exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, et d'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissent ce même traitement. En effet, Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. C'est la parole de Dieu. Le pouvoir du souvenir ne doit jamais être sous-estimé. Le souvenir, c'est la lentille par laquelle nous observons le présent, le monde autour de nous. Notre rapport avec le présent dépend de notre manière de gérer les souvenirs du passé. Et un même événement peut engendrer des réactions différentes en fonction de notre manière de nous rappeler de cet événement. Deux personnes devant un même événement peuvent avoir des réactions totalement différentes. Oh, et vous êtes certainement tous d'accord avec moi que la plupart d'entre nous, nous sommes très sélectifs en ce qui concerne nos souvenirs. Nous avons tous tendance à nous souvenir des bonnes choses et finalement devenir amnésiaques en ce qui concerne les souvenirs moins reluisants. Non seulement ça, mais je pense que la plupart d'entre nous, nous avons tendance, surtout avec le temps qui passe, à ressasser les souvenirs du passé. Et surtout à réfléchir à notre rôle dans ces souvenirs du passé. Et au fur et à mesure que nous ressassons les mêmes souvenirs du passé, est-ce que vous avez remarqué que nous avons toujours tendance à reluire notre rôle dans le souvenir du passé et éliminer tout ce qui est plutôt négatif? En fait, avec les souvenirs que nous ressassons, nous sortons toujours gagnants. Mais l'écrivain, le rédacteur de cette épître aux Hébreux est beaucoup plus réaliste. Il constate que la joie de la découverte de l'Évangile de ces premiers chrétiens qui ont supporté l'hostilité, la moquerie, l'humiliation, la prison, martyr, ils ont constaté que finalement, avec le passage du temps, il y a tendance à vouloir se retirer. Et au lieu de juger rapidement, il convient de passer en revue ce qu'ils ont subi. Pensez donc, tôt après la Pentecôte et la naissance de l'Église, premier martyr, Étienne qui a été lapidé sur ordre du Sanhédrin, et finalement, comme témoin, l'apôtre Paul, Saul de Tarse. L'apôtre Jacques, en l'an 44, qui a été décapité sur ordre d'Hérode Agrippa. Ou encore les chrétiens qui ont été spoliés, pillés. Beaucoup de chrétiens, finalement, ont perdu leur travail. Parce que dans la plupart des villes de l'Empire à l'époque, pour pouvoir exercer son métier, que ce soit maçon, que ce soit infirmier, que ce soit autre, il fallait également participer aux fêtes dédiées aux divinités de ces métiers. Et les chrétiens nouvellement convertis ont refusé de participer à ces fêtes. Et par conséquent, ils ont perdu leur place et ils ont vécu dans la pauvreté, dans la misère. Et tous ces chrétiens, parmi ces juifs convertis, qui ont été finalement expulsés de Rome en l'an 49 par Claude. Environ 10 000 qui ont été expulsés. Et aussitôt expulsés, ils ont erré ça et là. Et on les a expropriés. On a occupé leur logement. On a pillé leurs biens. Non, ce n'était pas simple. On peut comprendre finalement ces premiers chrétiens qui, à un moment donné, se sont découragés. Mais là, tout ne s'arrête pas. Parce qu'aussitôt après Claude, c'est Néron qui arrive au pouvoir à l'âge de 17 ans. Et lui aussi, à un moment donné, devient de plus en plus despotique, tyrannique. Il intensifie la persécution contre les chrétiens. Néron, nous l'appellerions aujourd'hui un genre de bouffon. Il aimait jouer la comédie. Il jouait donc de la lyre, il chantait devant les auditoires, et aussi bien la manière de jouer les pièces que de chanter, c'était épouvantable, mais il se faisait plaisir. Mais ça lui a donné une idée sombre. Pourquoi ne pas se servir de ce type de divertissement pour les habitants de Rome, en se servant comme acteurs, les chrétiens? Et donc, il organisait des pièces. Et dans les arènes de Rome, il amenait quantité de chrétiens recouverts de peaux de bêtes sauvages et il relâchait dans ces mêmes arènes des chiens sauvages qui déchiquetaient ces chrétiens en morceaux. Ou encore ces femmes chrétiennes qui étaient obligées finalement de jouer une pièce de théâtre en l'honneur de Drissé. Et dans la mythologie grecque, Drissé, c'était cette femme qui, à un moment donné, a été attachée à la queue d'un taureau et traînée sur les rochers jusqu'à ce qu'elle ait été mise en pièces. Et les chrétiens dans ces arènes de Rome étaient ainsi traînés par les taureaux sauvages jusqu'à leur mort. Toujours à Rome, en l'an 64, Néron pousse au comble en crucifiant et en attachant à des croix des centaines de chrétiens et en les mettant au feu pour illuminer à la tombée de la nuit et éclairer ses jardins. Souvenez-vous, souvenez-vous. Le temps passe et la joie du salut et la joie du début cèdent le pas au découragement. Il se trouve confronté à des souffrances à tel point que certains envisagent d'abandonner la partie. Qui n'a pas éprouvé de tels sentiments? Lassitude, fatigue, parfois le découragement face aux collaborateurs, découragement devant les chutes, les nôtres et celles des autres. Les prières non exaucées, les relations brouillées, les conflits non réglés, et j'en passe. Et avec le passage du temps, et je peux en parler, parce que je suis dans le crépuscule de ma vie, avec le passage du temps, le cynisme s'installe. On joue le jeu, on a le vocabulaire, mais sans l'enthousiasme et l'élan et l'entrain d'autrefois. Comment réagir devant le passage du temps et le poids des années? L'auteur de cette épître est clair. Il faut se souvenir, remémorer notre parcours. Mais l'accent ne doit pas se concentrer sur les combats, autant que finalement tout ce qui nous a motivés dans ces combats. Et là, l'auteur est précis. Et par conséquent, j'aimerais que l'on parcourt ce que dit le rédacteur de cette épître à ces chrétiens d'origine juive qui veulent se retirer. Et il dit en tout premier lieu, au verset 32, « Souvenez-vous de ses premiers jours où, après avoir été éclairé, cette rencontre avec le Christ vivant, ils doivent le passer en revue. Ça a bouleversé ces chrétiens. Ça leur a permis de se lancer à corps perdu dans l'œuvre de Christ. Ils ont accepté, sans compter, la rupture avec le judaïsme, rupture avec leur famille, la perte de leur métier et la persécution. Passer en revue notre conversion, notre découverte de l'Évangile. Vous vous souvenez encore? Ce temps finalement où l'opposition de vos proches et le « qu'en dira-t-on ?» Ne vous inquiétez pas. Vous étiez indifférent à tout ce que l'on pouvait dire sur votre compte. Vous aviez cette joie du salut, c'était cette découverte d'être libéré du poids du péché, d'une mauvaise conscience. Cette découverte qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, que nous sommes libérés du pouvoir du péché. Cette découverte bouleversante. Ou lors des sorties d'évangélisation, où John Alexander vous pointait du doigt et vous disait « À toi maintenant de témoigner. » Et vous devriez donc vous lever et témoigner. Il n'y avait pas d'hésitation. Oh certes, on avait le trac, mais pas d'hésitation. C'est le souvenir de notre découverte de l'Évangile qui nous permet de continuer dans la durée. D'où le besoin. Et pour moi, c'est quasi quotidien de prier comme David. Seigneur, renouvelle en moi la joie de mon salut. Et encore, lorsque je passe par des périodes de sécheresse, de pouvoir m'approcher du trône de la grâce, dans la repentance, reconnaissant que finalement je me suis éloigné, j'ai abandonné ce premier amour, et prier Dieu qui renouvelle en moi cette passion pour l'Évangile. Souvenez-vous de ces premiers jours après avoir été éclairés. En second lieu, nous voyons là au verset 34, souvenez-vous de l'esprit de solidarité. Ces premiers chrétiens se sont montrés solidaires avec tous ceux qui étaient en prison à cause de leur foi. Non seulement cela, mais on le voit au chapitre 11 et au verset 36, d'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Chapitre 13, souvenez-vous des prisonniers. Vous, les premiers chrétiens de la première heure, vous avez eu ce souvenir des prisonniers. Vous les avez visités. Et être en prison à l'époque, c'était pas tout simplement la sanction de passer 10, 15, 20 ans en prison. C'était l'arrêté de mort. C'était ce qui précédait l'exécution. Et par conséquent, visiter les prisonniers en prison, c'était leur apporter nourriture et vêtements et réconfort. Vous avez eu de la solidarité avec ceux qui ont subi le même sort que vous. Pierre vous a invité tout à l'heure à faire le parcours de ce lieu de rencontre, à partir donc de 1919 jusqu'à 2019-18. J'imagine que pour plusieurs d'entre vous, vous l'avez fait. Moi aussi, je l'ai fait. J'ai regardé toutes les photos. Et certaines personnes ici présentes sont venues vers moi hier pour me montrer les photos qu'elles ont amenées. Et je dis, ah, mais toi, je reconnais. C'est qui ça? C'est lui? Ah, mais qu'est-ce qu'elle était beau? Ah, mais c'est elle? Ah, mais qu'est-ce qu'elle a changé? Et ainsi de suite. Et lorsque vous faites le parcours finalement de cette salle, vous vous rendrez compte que finalement les années passent. Mais lorsque vous vous souvenez de votre passage ici à l'école biblique ou à l'institut biblique, j'imagine, oui, comme aujourd'hui encore pour la plupart d'entre vous, il y a des moments finalement qui ne sont pas toujours agréables dans la communion fraternelle. Il y a parfois les moments de conflit, mais dans l'idéalisme qui nous anime, Quand nous sommes dans ce lieu de formation, nous arrivons le plus souvent à régler nos différends, à demander pardon, à se relever, à marcher en avant. Mais avec le passage du temps. Aujourd'hui, en parcourant ces photos et en regardant vos camarades de session, est-ce toujours le cas? Est-ce que finalement, ce qui peut parfois encore nous séparer est plus important que ce qui nous unit? Et si oui, il ne doit pas en être ainsi. N'est-ce pas une merveilleuse occasion, les 100 ans de EBG-IBG, s'il y a encore des situations non réglées, de pouvoir dans l'humilité se trouver au pied de la croix en disant, on ne va pas ressasser le passé, on ne va pas essayer encore d'établir qui a tort, qui a raison, mais tous les deux, pendant que nous sommes en chemin, dit Jésus dans l'évangile de Luc, pendant que nous sommes en chemin, nous réglons nos différends et nos histoires. En troisième lieu, dit l'écrivain ici, souvenez-vous de la joie du sacrifice. Son stoïcisme, siècles, ont accepté finalement l'enlèvement de leurs biens, surtout lors de l'expulsion de Rome. De même, quantité des collaborateurs des 100 dernières années de cette œuvre ont accepté de partir en mission, que ce soit en France voisine, Portugal, Italie, plus loin au Tibet, Côte d'Ivoire, Égypte et j'en passe. Mais ils ont accepté de partir avec comme seul bagage leur sac de colporteur et leur boîte à outils. Avec joie, avec joie. Jim Elliot. Un homme que je n'ai pas connu, mais qui, lorsque j'étais lycéen, à l'âge de 11 ans, sa veuve et la veuve du pilote de l'avion de ces 5 missionnaires qui ont été tués par les Aouka est venue dans notre lycée. Et c'était le début du début du début de mon engagement pour Christ. Et Jim Elliot, dans son agenda, a écrit « Il n'est pas sot celui qui perd ce qui ne peut pas garder afin de gagner ce qui ne peut pas perdre. » Souvenez-vous de la joie du sacrifice. Souvenez-vous de la perspective du retour de Christ. C'est encore là, à partir du verset 35. Ce passage nous rappelle que le retour de Christ ne doit pas tarder. Et tous les témoins au chapitre 11 en étaient convaincus. Regardez, verset 10. « Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Verset 16. « Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. » C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Verset 26. Il estimait, Moïse, en effet, que l'opprobre du Christ était encore une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Verset 35. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. Chapitre 13 et verset 14. « Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » C'est de ma génération. Mais dans les années 50 et 60, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Église était abreuvée de messages et d'études sur la fin des temps et le retour de Christ, avec parfois les accents et les affirmations assez excessives. Peu importe, l'enseignement était là. Lorsque moi je suis arrivé en France, en 1969, à Paris, avec les premières équipes d'OM. À l'époque, aucun de nous ne pensait arriver à l'âge de la retraite. C'est peut-être pour ça que ma femme s'est mariée avec moi. Mais en tout cas, aucun de nous ne pensait arriver à l'âge de la retraite. Le communisme avançait à grands pas. Le monde est perdu. Christ revient, évangélisons. Et nous avions fermement la conviction que nous allions au-devant de ce retour imminent de Christ. Il est regrettable que nous avons perdu cet accent aujourd'hui. Souvenez-vous, je ne vais pas le commenter, c'est encore là, souvenez-vous finalement d'accomplir la volonté de Dieu au verset 36, je laisse passer. Souvenez-vous, plus solennel, à la fin de ce chapitre, souvenez-vous de ceux qui se sont retirés. Avertissement très solennel. Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir son œuvre, mais en même temps, quoi de plus terrible et de tragique que de gaspiller sa vie et ses compétences pour ce qui est inutile? Dieu peut se passer de nous. Et donc, dit le rédacteur, souvenez-vous finalement de cette ambition de faire la volonté de Dieu. Daniel Herman, hier, lors de la table ronde, on lui a posé la question, est-ce que finalement, dans ce projet de formation par alternance, on peut parler de succès? Et Daniel, pratiquement, il a donné une réponse de Normand, oui et non. Mais finalement, oui, parce qu'il y a beaucoup moins de désistement du ministère. À partir du moment où nous introduisons par formation alternée dans l'œuvre de Dieu des jeunes hommes et des jeunes filles. Il y a beaucoup moins de désistement. Et on est reconnaissant. Mais c'est avec le cœur lourd que l'on regarde en arrière. Et on constate parmi nos diplômés de 4 ans de formation ici à l'Institut biblique de Genève, le nombre de personnes qui se sont divorcées, séparées, et qui se trouvent finalement à côté de la plaque et qui se sont retirés du ministère. Souvenez-vous de ceux qui se sont retirés. Et entretenez quotidiennement cette crainte de rester accroché à l'essentiel. Et puis je passe un peu plus loin, presque à la fin. Souvenez-vous de vos conducteurs. Chapitre 13, verset 7. Hier, James a passé en revue tous les directeurs de l'EBG devenus IBG. Hébreux 11, 35 commence avec deux mots, des femmes. Et moi, je vais compléter le verset, mais ce n'est pas inspiré ce que je vais dire. Mais je vais quand même compléter. Des femmes. Des femmes qui ont œuvré dans l'ombre et qui n'ont jamais cherché à être reconnues. Yvonne, Rachel de Montmolin, Madame Zelvis, Antoinette Berthoux, Yvette Coigny, Margaret Natter, Myriam Feuth, Françoise Wavre, Jeanne Stoupel, Elisabeth Escher, Jacqueline Braunschweiger, Mireille Rath, et que dire de toutes ces femmes, des collaborateurs qui ont accepté de faire partie du club des veuves joyeuses. Sans toutes ces femmes, cette œuvre ne sera pas où elle est aujourd'hui. Mais revenons au texte. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. l'auteur de la parole de Dieu. Et nous devrions toujours honorer ceux et celles qui nous ont transmis la parole de Dieu. Mais cette exhortation est solennelle et ce n'est pas simplement dans l'air. Parce qu'au verset 9, l'écrivain écrit « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. » Et nous avons besoin de prier pour nos conducteurs, pour qu'ils transmettent toujours fidèlement l'Évangile, la parole de Dieu, sans ajout, sans soustraction. L'Église évangélique de nos jours, y compris en Suisse, est pourrie, empoisonnée par des faux évangiles qui, finalement, dévient de la beauté de Jésus-Christ. Et par conséquent, nous avons besoin de nous souvenir de nos conducteurs, de prier pour nos conducteurs, d'obéir, comme dit le rédacteur, à nos conducteurs, pour que nous puissions éviter tout dérapage dans les années qui viennent. Mais ensuite, nous sommes appelés à nous souvenir de nos conducteurs en vue de considérer l'issue de leur vie. Et ici, nous avons besoin d'une dose de réalisme. Ce n'est pas uniquement leur manière de mourir dont il est question. Mais c'est considérer l'ensemble du témoignage de leur vie. Considérer l'issue. Parfois, on démarre en trombe, mais finalement, c'est une pétard mouillée et on n'arrive pas à la fin. Il faut considérer l'ensemble du parcours de nos conducteurs. Mais, merci pour le pétard mouillé. J'en suis certain que c'est l'un de mes petits-fils, là. Mais, peu importe. Au moins, ils écoutent la parole de Dieu. Mais quand on réfléchit au chapitre 11 qui précède, on se rend compte que pour plusieurs de ces personnes qui nous sont présentées comme modèles à imiter, plusieurs n'ont pas eu une fin de vie ou un parcours vraiment reluisant. Qui aimerait terminer comme Gédéon, Jephté, Samson? Je pense que le plus grand fardeau que je porte en moi-même face à mes enfants et mes petits-enfants, c'est que je puisse être jusqu'au bout quelqu'un qui leur dit et qui leur exprime par ma manière de vivre que vivre en chrétien, c'est possible jusqu'au bout. Et c'est ce que l'auteur dit ici. Sans cynisme, sans baisser les bras, avec passion, avec enthousiasme, jusqu'au bout. Imitez leur foi. La fin de ce verset 7. Et pourtant, quand on lit attentivement le chapitre 11, on constate que la plupart des personnages, à partir du verset 6-7, sont des personnages qui ont connu les échecs majeurs dans leur vie. Abel, Enoch, ça va encore. Mais à partir du verset 7, avec Noé et suite, imitez la foi. Ah, heureusement, il y a dans chacune de ces vies, l'œuvre de la grâce est quelque chose à imiter. Mais ne vivons pas dans l'illusion non plus. Ne soyons pas idéalistes. Toutes ces personnes ont connu les échecs majeurs, que ce soit Noé, Abraham, David, et ainsi de suite. Cette exhortation à considérer leur parcours, à imiter leur foi, et où nos conducteurs sont appelés à être des modèles, ne doit pas nous faire oublier qu'ils sont fragiles, faibles. Et par conséquent, il ne faut jamais mettre nos conducteurs sur des piédestaux. C'est l'idolâtrie. Et pour conclure, L'auteur résume finalement toutes ses exhortations avec un appel et un rappel. Un appel et un rappel. L'appel, persévérez. N'abandonnez pas la partie. Continue à continuer. Restez sur le champ de bataille, même si vous n'êtes pas encore ou toujours sur le front. Il y a un temps pour tout. La retraite n'existe pas. Ça, c'est une invention, finalement, de la société paresseuse occidentale. Mais la retraite, c'est finalement simplement un changement de lieu de ministère et de champ d'action. Moi, on m'a sérieusement rappelé cela il y a 2-3 ans en arrière, alors que Don Carson, à un moment donné, lorsque je lui ai dit, mais Don, je m'approche de mes 75 ans, maintenant je les ai dépassés, Don, il faut vraiment que je me retire. Et il dit, Mike, n'oublie jamais que Moïse a commencé sa meilleure œuvre à l'âge de 80 ans. En 1941, lorsque l'Angleterre, menacée par Hitler, vivait les heures les plus sombres, Winston Churchill a donné un speech mémorable devant un auditoire de lycéens, là où lui-même a suivi ses études. Ça vaut la peine de lire l'ensemble de ce speech, mais il le termine par ces paroles. Never give in. Never give in. Never, never, never. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Jamais, jamais, jamais. Le rappel, eh bien, c'est le bouquet. Le rappel, c'est une confession christocentrique. Au chapitre 13, entre les versets 7 et 9, où nous avons cette phrase qui est finalement l'apogée de toute cette épître. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les bons vieux jours n'existent pas. C'est une illusion. Par contre, Christ ne change pas et ne peut être ni remplacé ni supplanté. Prions. D'une certaine manière, Seigneur, nous sommes contraints de prier comme Paul, qui est suffisant pour ces choses. Lorsqu'on regarde en arrière, qu'on constate les combats, les déceptions, les découragements, les moments où on aurait volontiers abandonné la partie. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est une grâce. Et ce que nous voulons te demander, c'est le privilège de pouvoir prendre du recul avec lucidité, et jour après jour, quotidiennement, te dire à nouveau, me voici, envoie-moi. Amen.